La musique des sphères, une chronique de Christian Weissenbacher.
C'est la lumière qui nous donne des nouvelles de l'univers, a dit William Henry Bragg. La lumière que voient les hommes depuis qu'ils regardent le ciel, celle qu'arrachèrent au noir de la nuit lunettes et télescopes depuis Galilée et Newton, celle enfin que peuvent accumuler les instruments d'aujourd'hui, donnant accès à des objets d'une luminosité de plus en plus faible. Mais les nouvelles les plus fracassantes de l'univers, l'homme les reçut du jour où il comprit les propriétés physiques de la lumière, à commencer par sa composition spectrale. Newton savait déjà que la lumière blanche était composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Au XIXe siècle, Maxwell et Röntgen découvrirent qu'il s'agissait d'ondes électromagnétiques de diverses longueurs, lesquelles, au-delà du prisme de la lumière visible, s'étendent des rayons gamma d'un picomètre jusqu'aux ondes radio de plusieurs centaines de kilomètres. Cette interprétation rejoignait les théories de Helmholtz, qui venait de comprendre la composition spectrale du son ainsi que son rôle dans la détermination du timbre. À la fin des années 1970, la réalité acoustique du spectre sonore intéressera les adeptes de l'écriture spectrale, à commencer par les compositeurs français Tristan Murail et Gérard Griset. Dans son Odyssée de l'espace, Kubrick joue sur les différents harmoniques du spectre sonore pour représenter l'évolution de l'homme depuis le singe jusqu'au surhomme. Aux harmoniques 1 et 3, fondamentales et quintes, représentant l'origine du monde, correspond le thème principal du Zarathoustra de Strauss, choisi comme indicatif de cette émission. Le beau Danube bleu intègre l'harmonique 5, la tierce, représentant, dans la deuxième partie de l'Odyssée, l'homme naviguant dans l'espace sous la tutelle de Hal. Et l'adagio du ballet Gayané de Khachaturian intègre les harmoniques 7 et 9, la 7e et la 9e, représentant Bowman en route vers Jupiter après avoir détruit Hal et repris la commande du vaisseau. Dans ce film, Kubrick a aussi retenu deux œuvres de Ligeti pour accompagner une manifestation extraterrestre. Le Kyrie du Requiem, qui revient à chacune des trois apparitions du mystérieux monolithe noir, et Lux Aeterna, lumière éternelle, qu'on entend pendant le trajet vers le cratère lunaire où a été découvert le deuxième monolithe. On sait aujourd'hui que la lumière n'a rien d'éternel. Pendant le premier million d'années qui a suivi le Big Bang il y a 14 milliards d'années, l'univers, qui était un milliard de fois plus dense et mille fois plus chaud qu'aujourd'hui, était dominé par une lumière primordiale bien antérieure à celle des étoiles et des galaxies. Mais avec l'expansion de l'univers, cette lumière primordiale ne cesse de diminuer. À la fin des années 1940, Gamow avait prédit qu'on en retrouverait un jour la trace. Et cette prédiction se réalisa en 1964, quand Penzias et Wilson découvrirent dans l'atmosphère un rayonnement électromagnétique de l'ordre des micro-ondes qui n'avait pas d'autre explication que cette lueur fossile. Dans le recueil du corps enchanté de l'enfant, Mahler a trouvé un poème intitulé « Urlicht », lumière primordiale, qu'il a mis en musique avant de l'intégrer à sa symphonie « Résurrection ». Et le poème termine par ces vers. « Je viens de Dieu et je retournerai à Dieu, qui me donnera une petite lumière pour éclairer mon chemin vers la vie éternelle. » On ne saurait mieux représenter la petite onde de 2 mm cheminant dans la foi d'un retour au Big Bang dont elle est issue. La lumière primordiale des premières secondes de l'univers serait elle-même le produit de la rencontre annihilante d'une matière et de son antimatière. Sauf rencontre d'ici là avec ma jumelle d'antimatière, je vous donne rendez-vous dans un mois avec les trous noirs.